Donc moi je suis géographe de formation, je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 2 et dans d'autres établissements aussi. Toute ma carrière a été faite sur les problématiques écologiques et environnementales liées à l'aménagement du territoire. Donc d'où le lien ville-campagne, cité, état, toutes ces choses-là. Bon. Et avec quand même deux temps, pour que vous sachiez aussi quelle est ma sensibilité. Bon, déjà, la première sensibilité, c'est que ma géographie est clairement radicale, au sens où il y a un courant de géographie radicale, c'est-à-dire critique des institutions et de l'ordre économique dans lequel on est. C'est aussi pour ça que je vais dire deux, trois trucs qui peuvent par moments crisper, énerver, et que j'aimerais bien avoir le temps de me faire lyncher, à la fin, tranquillement, si vous le souhaitez, dans 45 minutes. Maintenant, d'un point de vue de système de pensée ou de production de recherche, j'ai beaucoup travaillé les 15 premières années sur des projets d'aménagement qui rencontraient des problématiques environnementales, des grands projets dits structurants, dont l'actualité est encore largement peuplée, hein. Une A69 qui est à peu près inutile, des méga-bassines, enfin bon, etc. Moi, dans les années 2000, j'étais sur des projets comme ça, enfin, des lignes à haute tension, des aéroports, j'ai un peu travaillé sur Notre-Dame-des-Landes, des choses comme ça. Et en fait, j'ai tourné, mal peut-être, je sais pas, les collègues le diront, je vous dis franchement, mais néanmoins, à partir de 2010-2012, sur la question de la métropolisation. Parce qu'en fait, tous ces grands projets visent à accroître les flux et à desservir des villes qui grossissent. J'en suis arrivé à une critique assez vive du modèle métropolitain, mais dans l'entièreté de ce qu'il façonne comme espace et comme nécessité, c'est-à-dire l'aménagement du territoire qui est polarisé autour de l'attractivité métropolitaine et de la concentration des richesses dans les villes au détriment des mondes ruraux, des campagnes et des cultures paysannes. Voilà, d'où le lien que je fais entre les deux. Je ne viens pas des études rurales, je viens plutôt des études urbaines. Du coup, je vous propose trois temps dans les 40-45 minutes. Un premier temps sur la question de ce dont nous héritons dans justement les relations ville-campagne, l'aménagement du territoire aujourd'hui. Pourquoi est-il à ce point disproportionné, sans jugement? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, sur le siècle écoulé, ont été sommés d'aller vivre dans les grandes densités, au détriment, on verra, hein, des types d'activités ou au profit d'une fonctionnalisation des campagnes à des fins alimentaires notamment. Donc ce dont nous héritons soulève quelques questions en termes de dualité et de relations ville-campagne. Ce sera le premier temps pour une petite dizaine de minutes. Puis après on verra un deuxième temps, les tensions que ça peut créer aujourd'hui, parce qu'il y a deux, trois contrariétés, c'est-à-dire que les ruralités, les gens qui y vivent, de plus en plus se posent des questions sur ce que l'histoire a fait de leurs espaces de vie, de leur écologie. Et j'insisterai sur un autre point, c'est que les campagnes n'ont jamais été aussi et autant désirables qu'aujourd'hui et même sur les 30 ou 40 dernières années. On a plus de 80% de la population française qui souhaiterait vivre dans les campagnes. Bon. Donc ça sera le deuxième temps, les tensions engagées ou comment on mélange les cultures. Ce deuxième temps sera beaucoup plus sur les cultures dans les campagnes. Le premier temps autour de ce dont nous héritons, plutôt sur l'évolution économique. Ce que ça a pu créer, l'attractivité, la polarisation métropolitaine, est indéniablement quelque chose qui est éminemment structuré autour des dynamiques du capital. Hein, soyons clairs autour de cette chose-là. Et le troisième temps, comment ?
Je suis d'accord avec vous.
D'accord.
C'est le mot magique. Là.
Et le troisième temps, qui sera un peu plus long, donc 10 minutes, et le dernier temps, 20 minutes, qui est ce qui est annoncé écologiquement. Et en fait, ce qui est annoncé écologiquement, je lâche tout de suite, ça peut paraître grandiloquent, je prendrai le temps, d'où les 20 minutes que je me suis auto-alloué, pour vous en parler, c'est que l'avenir de l'humanité va jouer dans les ruralités. Mais tout simplement parce que l'énergie a commencé à manquer, la matière commence à manquer, et que du coup, ça va débarquer à un moment donné. Donc autant en discuter et anticiper, et du coup la place de l'agriculture vivrière nourricière, mais plus largement paysanne, est indéniablement reposée. Voilà ce que je vous propose, 10 minutes, 20 minutes, un angle économique, un angle culturel, et un angle plutôt écologie et politique sur la fin. Ça vous va comme contrat? C'est bon? Alors, du coup, de quoi nous héritons? Et là, c'est là où je m'assois. C'est bon pour tout le monde?
Ouais.
Ça marche même mieux. C'est extraordinaire. Si je m'allonge, alors c'est un peu...
le hamac.
Ce dont nous héritons... d'une disproportion. Ce dont nous héritons, c'est indéniablement, bon, globalement je vous donne 2-3 données d'entrée pour qu'on puisse avancer. La population française est structurée globalement en 3 tiers, Un tiers vit dans les 22 grandes métropoles labellisées. Un tiers vit dans des villes moyennes. En France, c'est de 20 à 80 000 habitants. Je reste sur le cas français, sachant que chaque pays a sa définition de la ville. Et que ça va être très compliqué si on commence à comparer, mais on y viendra après dans la discussion si vous le souhaitez. Et le dernier tiers vit alors dans des petites villes de proximité, moins de 10 000 habitants, et surtout dans les campagnes. Voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Bon. Premier élément que je livre à votre sagacité, c'est que le nombre de ruraux a pris 15% en l'espace de 5 ans. Mais non pas parce que vous avez vu arriver 15% de la population française ici ou ailleurs, hein, c'est parce que l'INSEE a changé son indicateur de suivi, de mesure. En fait, auparavant, était rural tout ce qui n'était pas urbain. Merci l'INSEE. Aujourd'hui, ce sont des espaces de faible densité. La diagonale du vide, terme si chatoyant, utilisé pour qualifier avec fierté hein, les gens qui y résident. Oui, alors les mots sont piégeux, hein, mais si vous êtes habitant d'un périurbain, donc c'est ce qui entoure la ville, péri ou suburbain, c'est ce qui est en dessous de l'urbain, d'une ville moyenne, moyenne ça veut dire médiocre, hein, qui est logé dans la diagonale du vide, alors imaginez le matin quand vous vous levez, une fierté. En fait, on a beaucoup de termes, mais je le dis, alors ça peut paraître humoristique comme ça, mais c'est pour anticiper le temps 3 sur la manière dont les institutions ont usé de mots qui sont disqualifiants et qui aujourd'hui sont clairement un verrou, un nœud gordien qu'il va falloir trancher. Donc je reviens sur mes trois tiers, voilà. L'INSEE, tout ce qui n'était pas urbain était considéré comme rural, c'est-à-dire 3% de la population française, que toutes les villes irradient, attirent, ont des zones d'influence et d'attraction. Et en passant maintenant à l'indicateur de faible densité, on a à peu près un tiers de la population qui est considérée comme rurale. Voilà. De faible densité ou de très très faible densité. Une fois ces choses-là posées, de quoi héritons-nous ? Globalement, 1930, 50% de la population était rurale. 1970, si on prend les données d'INSEE aujourd'hui, 25 à 30% étaient rurales. Au 19e siècle, en 1870, on avait 80% de la population française qui était rurale. Donc vous voyez bien qu'il y a une urbanisation croissante à l'échelle mondiale, une population urbaine qui ne cesse de croître, et une population rurale qui ne cesse de décliner. Et ce dont nous héritons, c'est indéniablement trois échelles de temps. Et on va remonter dans le temps. La grande accélération des 50 dernières années, c'est la métropolisation qui va accélérer un mouvement déjà engagé, globalement, d'exode rural forcé et qui avait débuté avant 1970. J'y reviendrai parce que c'est aujourd'hui indéniablement le caractère funeste de nos sociétés. C'est de regrouper et au détriment bien évidemment des ruralités. Le deuxième temps, qui est celui plus ample dans lequel la métropolisation est emboîtée, c'est l'ère thermo-industrielle des deux siècles et demi dont nous héritons, qui fait que les mondes paysans du haut Moyen-Âge ont vu globalement leur poids relatif et politique évoluer et leur poids économique orienté par la production, par l'intensification, notamment au XXe siècle, produire l'alimentation pour les bras qu'on a retirés des campagnes et qu'on a concentrés dans les villes à des fins industrielles et ouvrières. Voilà. Et j'attire, et c'est la seule ouverture que je ferai sur le temps géohistorique très long, c'est que les 50 dernières années de la métropolisation sont levées dans deux siècles et demi thermo-industriels, c'est l'ère du capitalisme industriel, hein, eux-mêmes levés dans des millénaires et des millénaires, puisque en fait c'est le temps long de la civilisation qui a en fait l'urbain et la ville pour fleurons. Et ça remonte en fait à la Mésopotamie antique et à la révolution néolithique, donc ça remonte à plusieurs millénaires. On n'a pas un petit souci, on a un énorme problème, et j'y reviendrai dans le troisième temps, c'est que écologiquement, ce temps-là de l'humanité, qui pour moi se regarde un peu de nombril depuis les grandes densités, ce temps civilisationnel, j'aime pas le terme, d'une humanité très urbaine, vraisemblablement va devoir se refermer à un moment donné. Tout simplement parce que écologiquement, les limites commencent à buter sur l'ultra-polarisation, l'hyper-concentration, le béton armé, toutes ces choses-là. On n'a plus les moyens de continuer à concentrer et à disproportionner notre territoire. Parce qu'effectivement, soyons clairs, ça a produit ces trois périodes concanées, là, et notamment les 50 dernières années de la métropolisation, des disparités. Des disparités En termes d'accès à des services dits de nécessité première ou de proximité, en termes d'emploi, en termes de richesse, aujourd'hui, 50% de la population active en activité à Paris est composée de cadres sup et d'entrepreneurs. Le nombre de cadres sup augmente à Nantes de 1% par an sur les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on voit bien que la concentration métropolitaine est une concentration qui ne se fait pas dans une justice sociale clairement partagée. Et que les ruralités, ce sont indéniablement, avec les quartiers populaires, hein, c'est les deux lieux largement paupérisés dans le même temps. Voilà. Sur les 50 dernières années, on a indéniablement des populations qui ont perdu en moyens, en ressources, en capacités. Mais c'est en train de s'inverser pour l'écologie à laquelle je vais venir tranquillement. Bon. Donc nous héritons de quoi ? D'une très très forte inégalité, disparité et inégalité territoriale qui sont le produit direct du temps très long multimillénaire de la civilisation urbaine, du temps thermo-industriel qui a permis de mécaniser, automatiser à peu près toutes les productions agricoles notamment, mais pas que, hein. La ville-usine a pour corrélat la campagne-machine. Les exodes ruraux ont été forcés pour tout simplement concentrer, polariser les bras à des fins industrielles et donc d'un commerce et donc d'une internationalisation d'un marché qui, mondialisé, aura dorénavant la métropole pour fleuron. Voilà. Et d'ailleurs, dans la métropole, tous les espaces de pouvoir y sont concentrés. Voilà. Vous ne voyez pas l'Elysée à moins de 5 km d'ici. C'est pas étonnant, c'est pas un errement d'histoire, c'est une réalité. Du coup, on hérite de disparités et d'inégalités éminemment importantes qui ont en fait, et je terminerai là-dessus le premier temps, cette dualité sociale, territorialisée, parce que ça revient à dire ça, hein, c'est-à-dire ce partage ville-campagne, a indéniablement, produit des asymétries, créé des inégalités, voilà. Mais c'est fait dans une violence culturelle et symbolique d'une puissance abyssale. C'est-à-dire qu'il a fallu disqualifier, ou en tout cas, il a fallu à un moment donné poser question sur ce que nous entendons par modernité. La modernité pour les mondes ruraux, qui ne sont pas que agricoles, hein, soyons clairs, parce que ça aussi, ça m'a fait remarquer, les ruralités se sont diversifiées, ce n'est plus que de la production alimentaire. C'est aussi de l'accueil touristique, c'est aussi de la préservation environnementale, hein, d'accord ? Les ruralités ne sont pas unifiées, comme les villes ne sont pas uniques. Mais néanmoins, dans cette diversification rurale, dans cette diversité, indéniablement, il y a aussi des asymétries culturelles et symboliques qui se sont instituées. Il y a aussi des inégalités en la matière. Donc, du coup, on a là, dans l'héritage, quelque chose avec lequel composer, pour faire court, des fiertés ont été retranchées, voilà. Depuis les mondes ruraux et depuis certains types de production agricole, parce que la foi est claire, hein, les agricultures sont diverses et toutes ne répondent pas à la nécessité ou en tout cas à la flèche du temps et à l'imposition de la modernité. Toutes n'ont pas décidé de sombrer dans la chimie de synthèse et dans la mécanisation, l'automatisation, dorénavant par drone interposé qui permettrait d'accroître les rendements. Toutes les agricultures n'ont pas sombré dans la macro-exploitation et l'acquisition des terres pour grossir, grossir, grossir. Et pourtant, c'est bien ce qui est imposé. Pendant que les villes croissent, les terres doivent être fusionnées. Les exploitations doivent absolument accroître leur productivité. On est bien dans un régime de croissance, en fait. Hein. Voilà, je voulais ponctuer le premier temps autour de s'il y a disparité sociale et territoriale, c'est parce que tout simplement, on est dans une économie qui, mondialisée, veut absolument gagner en part de marché et que la croissance doit être allée rechercher avec les dents de préférence et que pour ça, eh ben, ça doit se faire en accroissant les rendements. Et ces rendements, c'est la tertiarisation des économies dans les mondes métropolitains et c'est l'orientation dans la production agricole, dans les campagnes, même si, soyons clairs, les campagnes se sont diversifiées socialement par aussi... Alors, les dynamiques aujourd'hui sont dans les campagnes en France. Vous avez des campagnes qui attirent plus que d'autres Indéniablement, la qualité des terres peut jouer à un moment donné, mais soyons clairs, on a eu dans les années 70-80 plutôt un phénomène héliotropique, c'est-à-dire de descendre vers la Méditerranée, pourtour méditerranéen. Et aujourd'hui, c'est un phénomène héliotropique, c'est l'océan qui attire. Voilà. On a des grands mouvements qui s'opèrent. Mais à bas bruit, j'y reviendrai dans le troisième temps, il y a aussi des remontées qui sont en train de s'opérer, tout simplement parce que la chaleur aidant et les canicules font que de plus en plus de gens se posent la question de leur propre vivabilité et viabilité, depuis le sud méditerranéen qui a déjà commencé à être proprement viable 3 mois dans l'année. Je vais faire la parenthèse que j'y reviendrai. Voilà globalement ce dont nous héritons, des mouvements, mais qui sont plutôt, pour ce qui est de l'hélio et l'haliotropisme, le bassin méditerranéen, et le pourtour océanique, qui sont une nouvelle fois plutôt des gens qui sont passés par la ville et qui, à la retraite, décident de venir soit dans leur pays d'origine, soit alors tout simplement d'aller vivre quelques années pour que la retraite continue à tenir, vu que c'était pas totalement assuré, mais néanmoins, une vingtaine d'années dans des lieux qui sont des lieux un peu aérés ou un peu ensoleillés. Bon, l'écologie va rebattre 2-3 quarts de cette chose-là. Donc voilà pour le premier temps, nous héritons globalement de fractures, d'une fragmentation territoriale, et cette fragmentation a opposé, ou en tout cas, a fait des villes, les déterminants de l'aménagement du territoire. La ville a créé ses propres hectares fantômes, ses propres territoires servants, ses propres esclaves énergétiques, par mythe de la délivrance, vous voyez ce que je veux dire, par délégation à des espaces, mais des espaces que l'on maîtrise de loin, par des politiques agricoles communes, par des subventions, pour accroître les rendements et continuer par le dépeuplement à concentrer dans les villes là où la productivité, ou en tout cas les activités, sont considérées comme plus rentables pour une économie de marché. Ça va ? C'est bon pour vous ? Donc ville-campagne, c'est un partage économique, ça va, qui s'est territorialisé, et qui renvoie comme par hasard aussi à un autre partage qui est nature-culture. C'est-à-dire que les cultures métropolitaines donneraient le lard de la manière de se comporter et les ruralités seraient plus proches d'une nature, mais une nature qui aurait été domestiquée à des fins culturelles, métropolitaines en particulier. Donc je passe au deuxième temps, nature-culture, ville-campagne, tous ces partages-là qui en fait se lisent dans nos géographies. Qu'est-ce que ça crée aujourd'hui comme type de lien, comme type de relation ? Et ça crée des tensions, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué, très certainement. C'est-à-dire que vous avez par exemple une enquête qui a été publiée il y a 5 mois de cela, qui s'appelle Parole de campagne, à laquelle je vous renvoie, qui a enquêté 3000 ruraux autour de la manière dont ils vivent, ils ressentent ce qu'ils vivent au quotidien, leur mode de vie, quel est le degré de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est assez éloquent. Globalement, un sentiment, d'abandon, de relégation dans les campagnes, par rapport aux instances et aux institutions politiques, par rapport aussi à l'ordre économique, par rapport à l'offre de services publics. Voilà. Il y a plein de paramètres qui font que les ruraux, de cette enquête, mais l'enquête est assez sérieuse et l'échantillon est bien représentatif. Il y a à la fois relégation, abandon, mais j'attire votre attention sur le fait aussi que ce qui ressort et qui était déjà ressorti aux États-Unis par d'autres enquêtes en 2014 et 2016, c'est que le terme n'est pas scientifique, mais il a le mérite d'être clair, c'est lâchez-nous la grappe. C'est-à-dire que de plus en plus de ruraux estiment qu'ils n'ont pas à se commettre, à se soumettre à la manière dont les mondes métropolitains décident globalement de la façon de vivre, de la façon de consommer, bref, des modes de vie qui seraient imposés. Vous n'êtes pas sans avoir vu qu'il y avait des petites tensions entre ville et campagne sur des dispositifs, des zones à faible émission, un zéro artificialisation net. Excusez-moi, on est rentré dans les termes un peu techniques, mais en termes d'aménagement, c'est bien ce qui a traversé la législature récente. Bon. Il y a donc quelque chose qui est en train de se tendre entre les mondes urbains et les mondes ruraux, et de l'enquête ressort quelque chose qui est un ressentiment, qui était déjà attesté ailleurs. Ce ressentiment, c'est celui d'être dépossédé, d'être infériorisé, ou en tout cas pas mis en capacité de pouvoir intervenir très directement. Bref, les filières économiques sont définies, déterminées, inféodées à l'extension urbaine et au développement métropolitain. Les mondes politiques regardent ça d'assez loin. Ne dites pas que même le Sénat, qui est censé représenter les territoires ruraux, pèserait autant que des ministères ou qu'un État qui a quand même toute sa base à Paris qui est une capitale, mais aussi une ville-monde qui a servi un peu de modèle avec Londres, avec Tokyo, avec New York, de la métropolisation dont je parle, d'accord ? Donc il y a un sentiment d'incapacitation, de dépossession, qui ressort maintenant assez vivement. Bref, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fiertés ont été retranchées, et c'est en train de symboliquement s'inverser. C'est-à-dire que les ruralités, on verra pourquoi dans le dernier temps, ne s'en laissent plus compter. Ce qui était imposé comme élément de modernité est de moins en moins accepté. Cette idée d'un progrès, qui serait un progrès qui apporterait du confort à tout un chacun, est dorénavant clairement relativisé. Donc c'est-à-dire que le discours idéologique, hein, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, le discours idéologique qui vise à dire globalement qu'il n'y a qu'un seul train, il va falloir le prendre collectivement, et qu'il va falloir se répartir, grosso modo, la plus-value ou l'utilité, est dorénavant clairement remis en question. Bref, la partition territoriale évoquée crée une dualité culturelle. Alors je cherche pas à opposer les urbains et les ruraux, hein. Peut-être que dans la discussion on verra justement quel a été votre parcours et votre trajectoire, parce que beaucoup sont passés par les villes pour revenir au pays, ou certains ne l'ont jamais quitté et regardent ça de loin, vous voyez ce que je veux dire ? Chacun a sa propre manière de penser en fonction de sa propre biographie, et c'est très important de toujours le mettre sur la table. Il n'en demeure pas moins qu'il y a bien une dualité, enfin il y a bien une fracture ou une fragmentation territoriale qui crée de la dualité sociale. Mais, parce que c'était simple jusqu'à maintenant, enfin je sais pas pour vous, hein, mais moi ça me semblait assez simple, c'est très clivant mon affaire. Il y a un facteur qui, dans l'inversion symbolique, est en train de s'opérer. Je l'ai énoncé en introduction très rapidement. C'est que le désir de campagne n'a jamais été aussi grand. Toutes les enquêtes convergent que depuis justement le temps métropolitain 1970-1980, de plus en plus d'urbains souhaiteraient vivre dans les campagnes. On est même aujourd'hui à 87% de la population française qui souhaiterait vivre dans une petite ville de proximité ou dans les ruralités. Ce chiffre n'a jamais cessé d'augmenter, il est convergent, confirmé par toutes les grandes enquêtes, qu'elles soient de sondeurs ou de collègues qui font des recherches à partir d'échantillons un peu représentatifs. Pourquoi ? Alors, à la fois l'appel de la nature, un peu fantasmé, un peu romantisé, hein, soyons clairs, on ne va pas se mentir aussi là-dessus, hein, ça va ? On est persuadé que la nature est inerte, d'une beauté abyssale, non, par moments elle peut être aussi un peu contraignante. Bon, donc il y a une forme de romantisation, ça va ? Mais j'attire votre attention, c'est surtout pour reprendre en main des modes de vie qui ont échappé. Voilà. C'est ce qui ressort des enquêtes. C'est-à-dire de se ressaisir, c'est l'incapacitation dont je parlais, dans les mondes ruraux, depuis les mondes urbains, il y a cette idée, vraie ou pas vraie, on aura l'occasion d'en discuter, que on peut tout simplement, alors bifurquer, je ne sais pas, mais faire différemment, vivre autrement. Voilà. C'est indéniablement ce qui traverse les enquêtes qui ont été menées et qui tendent à montrer qu'il y a une désirabilité jamais désavouée depuis maintenant 50 ans. Alors espace de nature, ouverture, pouvoir ralentir, vivre différemment, habiter autrement, sont plein d'éléments qui tendent à montrer que les tensions dont nous héritons éventuellement culturelles entre monde urbain et monde rural, qu'on a grosso modo logé hein, spatialement, géographiquement, et qui ont pu créer des distances culturelles, et ben l'enjeu du moment est bien de retisser du lien. Parce que si les urbains souhaitent vivre dans les campagnes, ça a déjà commencé. On a des lieux et des territoires entiers qui n'ont pas totalement été revigorés, mais l'INSEE atteste qu'il y a des taux de croissance, je ne parle pas en quantité, hein, mais vraiment en taux, il y a des taux de croissance qui sont de peuplement qui sont supérieurs dans certaines et nombre de campagnes qui ne le sont dans les espaces métropolitains. Pour information, pour revenir un instant sur les mondes métropolitains, vous avez 42 des 50 premières villes du nord global, c'est-à-dire des grandes villes qui servent de modèle, 42 des 50 plus grandes villes du nord global perdent de la population. Alors c'est pas des millions, hein, mais c'est des dizaines ou des centaines de milliers annuellement ou pluriannuellement. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un mouvement, alors l'Espagne a lancé modestement un programme de repeuplement des campagnes.
Ça ira pas plus loin.
La nature, faut arrêter avec la nature. Voilà. Le Japon, le gouvernement de Tokyo paye des gens pour partir de la capitale. Voilà. La Chine a plafonné Shanghai et Pékin à 23-25 millions hein, d'habitants, donc ils ont un peu attendu. Bon. Il y a des plafonnements de peuplement qui commencent à arriver. La Suède déménage des villes côtières de 30 000 habitants. Le Danemark relance son programme de repeuplement des campagnes, enfin un programme réflexif, hein, donc de prospective et de planification. On est en fait là à une croisée des chemins. Je ne dis pas qu'ailleurs ils ont pris le pas et qu'ils sont engagés, c'est très modeste. Hein. Le programme de repeuplement en Espagne, c'est quelques milliards d'euros. Ça ne rivalise pas avec un grand pari qui, grand projet, représente officiellement 40 milliards et va finir à 75 milliards. Ça va ? La Creuse d'ailleurs attend toujours son équivalent monétaire de sa population en mobilité. Hein. C'est pour vous dire, hein, il y a une disparité mais totalement consumée, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez d'ailleurs si vous voulez la disparité, globalement les moyens alloués par l'État en termes de dotation globale de fonctionnement par habitant en fonction d'un habitant qui vit dans une métropole ou un habitant qui vit dans les campagnes. Et vous verrez, ça va du simple au quadruple. Voilà. Mais parce que, bon, on a peut-être l'occasion d'en discuter. Ces asymétries-là, ces disproportions sont en train, globalement, pour d'autres raisons, et je viens en temps 3 justement, sont en train de poser considérablement de questions. Oui, ça peut se tendre, mais néanmoins le désir est dorénavant suffisamment renseigné, entériné, pour annoncer en fait, alors ce que l'on a, ce dont les médias se sont saisis de manière abusive au moment du Covid et du confinement, il y aurait un exode urbain, voilà bien un terme de médias parisiens, soyons clairs. L'exode, historiquement, c'est des famines, c'est des guerres civiles, ça va ? Alors, une pandémie, c'est pas rien non plus, hein. Mais néanmoins, on n'était pas, on n'a pas eu des chiffres d'exode. Mais par contre, il y a eu à bas bruit un déplacement, ça c'est clair. Beaucoup de gens, après être partis, sont revenus dans les espaces métropolitains. Néanmoins, on est bien à la septième vague de néo-ruralité. Néanmoins, il y a bien 100 000 personnes qui aujourd'hui quittent les espaces métropolitains, voilà, en moyenne, et que ce chiffre est annoncé pour augmenter sur les 10 ou 20 prochaines années. Donc du coup, il y a dans ce deuxième temps-là, les tensions, un enjeu qui est un enjeu alors concorde, je ne sais pas, d'harmonie certainement pas, mais de voir comment les populations urbaines, métropolitaines en particulier, qui désirent par fantasme, par romantisme ou par sincérité, je ne cherche pas à les juger, à vivre dans les campagnes, comment ces populations-là peuvent s'insérer, selon quelles activités ? Quels moyens elles développent et quel type, on va dire, de culture locale, dans quel type de culture locale elles s'inscrivent. Et là, soyons clairs, on travaille notamment avec le mouvement post-urbain sur des écolieux. Autour des écolieux, par moment, les questions sont posées. C'est-à-dire qu'il y a des gens de belle volonté qui arrivent, qui achètent un lieu et qui essayent de le réhabiliter, mais selon des activités et des modalités qui ne sont pas insérées du tout ou alignées avec les cultures locales. Voilà. Les cultures de la socialisation, les cultures, du partage et des solidarités, mais ça va loin, hein, sincèrement, hein, quand on est urbain, généralement, ben on est les vainqueurs de l'histoire, on arrive avec des gros sabots, même si on a plein d'énergie, hein, soyons clairs, et on arrive, on veut organiser une petite fête, pour se faire connaître, voilà. Les ruralités, on leur fait pas à l'envers sur la manière de s'amuser, mais c'est un peu plus discret par moment, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on se socialise différemment. Donc en fait, tout l'enjeu, il est comment se réinsérer lorsque, souvenez-vous du premier point, la géographie nous a séparés. Voilà. Entre les cultures urbaines qui ont appris à vivre d'une certaine manière, qui indéniablement se sont imposées à tous les autres territoires par des activités et surtout un imaginaire de domination, et ben, il va falloir dorénavant réapprendre à vivre ensemble, mais selon des modalités qui, historiquement, nous ont séparés particulièrement lorsqu'il s'agit de style de vie, de forme de vie et de rapport au monde. Et c'est tout l'enjeu qui nous est posé. Donc, temps 1, fracture territoriale, temps 2, des tensions qu'il va falloir dépasser. J'en ai fini pour les deux premiers points. Si vous êtes encore avec moi, est-ce que ça va ?
Oui, oui, oui.
Du coup, le troisième temps, je sais pas où j'en suis, mais je crois que je suis dans les temps, globalement. Troisième, comment ?
Pas le
temps. Alors, troisième temps. C'est vrai, ça. Je vais faire une pause de 15 minutes, ça vous en va pas. Juste pour se détendre. Exactement, on va faire ça.
C'est en ville qu'on
peut. Du coup, le troisième temps est sur ce qui a commencé à changer. Parce que je reviens sur l'idée que il y a une désirabilité des campagnes, des ruralités.
Mais c'est toi qui l'as écrit ou qui l'as illustré ?
Désirabilité des campagnes, pour 80% de la population. Cette désirabilité, souvenez-vous, a pour élément premier le fait de vouloir habiter un peu différemment, de se remettre en capacité. Du coup, la question est, de quoi les villes métropolisées ont dépossédé les populations au point d'avoir envie de changer de vie ? Ça revient à dire ça. Hein. Soyons clairs, tout le monde n'a pas les capacités de cette bifurcation. Hein. Mais néanmoins, par exemple, les enquêtes de l'Union sociale pour l'habitat attestent que près de 20% L'Union sociale pour l'habitat, c'est la gestion du patrimoine logement social. Hein, d'accord. Près de 20% du premier décile des populations qui sont éligibles au HLM souhaiteraient vivre dans des petites villes de proximité ou dans les campagnes. Et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que l'on croit, mais de manière, c'était vrai il y a 30 ans, ça l'est moins aujourd'hui, et ça le sera certainement encore moins demain, que le changement de lieu de vie, le fait de partir des villes, serait le fait de bourgeois qui auraient quelques moyens, c'est pas totalement faux, mais c'est totalement loin d'être vrai. C'est-à-dire que c'est en train de traverser l'ensemble des cultures sociales. Voilà. Mais parce que le besoin d'ouverture, d'espace de nature, d'un belvédère, ou tout simplement de ralentir et de vivre différemment, c'est peut-être les premiers, les opprimés, que ça chatouille un peu de vouloir le faire. Ça va ? C'est assez cohérent cette affaire. Bon. Néanmoins, les métropoles et les villes ont nassé les cultures populaires, tout simplement pour des raisons ouvrières. Ça remonte au siècle dernier. Et les quartiers populaires seraient censés être tout simplement ad vitam aeternam au même endroit. Et le problème, c'est que les gens qui y résident, de plus en plus, estiment que ça serait bien aussi qu'on pense à elles dans d'autres cadres habités pour d'autres formes de vie. Alors pourquoi ? C'est le troisième temps qui s'engage. Qu'est-ce qui aurait de changé pour qu'il y ait 80% de gens qui veulent vivre dans les campagnes et les ruralités ? Sans pour autant que, je le répète, hein, tout ça se fasse tranquillement, dans une belle harmonie, hein, unis pour la vie, parce qu'il y a des tensions, il y a des fractures, et qu'on n'hérite pas de siècles entiers où les campagnes ont été minorées sans qu'à un moment donné, tout simplement, ça pose question dans la manière de se relier, de s'insérer. Tout simplement parce que les villes, métropolitaines en particulier, ont commencé, et ça va s'accélérer, à devenir proprement invivables, inhabitables. Les dernières, je vous donne parce que ça sort à peu près tous les jours, mais l'Agence européenne de l'environnement sort des données pour 2100, alors c'est pas demain, on reviendra à 2050, qui lui est plutôt demain, mais en 2100, Strasbourg est annoncé à 55 et 56 degrés, en période caniculaire, et le FMI, qui est pour une petite officine révolutionnaire, nous dit que à cet horizon-là, vous aurez 74% de la population mondiale qui vivra des canicules mortelles de 15 jours à 4 mois par an. Voilà. Donc Strasbourg à 55-56, Nancy à 53, Metz à 54, ou inversement. On n'est plus à un degré près, hein, si ça ne vous dérange pas, j'ai un trou de mémoire. Mais Paris en 2050, là je reviens, 2050 est annoncé à 50 degrés, et toutes les grandes métropoles sont annoncées à 45-46 jusqu'à 51-52 degrés. Bon, donc premier élément, d'un point de vue thermique, je ne sais pas comment vous faites vous passer 40 degrés, mais ça risque de suer un peu. Voilà. C'est proprement létal. Mais ça, on en entend assez rarement parler. Il n'y a que, les cercles d'experts, je ne devrais pas dire ça parce que ça fait théorie du complot, il n'y a que des gens qui s'intéressent au sujet qui, à un moment donné, mettent ça sur la table. Il y a un problème d'invivabilité déjà engagé, annoncé pour les grandes densités, les grandes villes, à cet horizon-là. Deuxième élément, les 100 premières villes de France sont... je vais commencer par le deuxième. Savez-vous que vous avez aujourd'hui plus de 19% de la population mondiale qui vit dans des villes qui, du fait des masses humaines et surtout du béton, s'enfoncent sous le poids de la matière. La concentration du béton et le pompage des nappes phréatiques fait que vous avez aujourd'hui, dernière étude en date des collègues américains, publiée il y a 8 mois, vous avez 25 des grandes villes américaines qui s'enfoncent sous le poids du béton. Alors c'est pas des mètres entiers, c'est par millimètre. Mais le mouvement semble s'accélérer, et mis bout à bout, à horizon de 30 ans, et ben c'est 10 cm, c'est 20 cm, c'est un demi-mètre, voire un mètre. Et il faut être clair, c'est-à-dire que l'écologie est devenue tellurique. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le sol qui se dérobe sous le poids de nos pas et de toutes les activités infrastructurelles que l'on a développées. Voilà le type de données écologiques avec lesquelles on va devoir cohabiter. Croyez-moi bien que depuis les métropoles, c'est un peu compliqué. Et troisième élément, juste pour ouvrir la discussion de ce troisième temps, vous avez, à mon avis, c'est l'argument définitif pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, les 100 premières villes de France ont 3 jours d'autonomie alimentaire et 6 heures d'autonomie énergétique. Qu'est-ce à dire ? Que les villes se sont achetées leur propre pérennité sur le dos des campagnes. Elles ont délégué la production alimentaire et énergétique, la production de matière aux ruralités qu'elles ont inféodées. Dans le rapport de force politique, c'est très clair. Mais c'est en train de s'inverser parce que, autre donnée, descente énergétique et compression matérielle, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'énergie pour vivre. Alors on va devoir vivre différemment, mais on va devoir compter l'énergie consommée. Il n'y a pas de transition énergétique, les énergies renouvelables ne se substitueront jamais aux énergies fossiles, parce qu'il faut beaucoup de fossiles pour faire du renouvelable. Et accessoirement, si c'est pour mettre des parcs éoliens et agrivoltaïques, a priori, et les méga-méthaniseurs, il faudrait peut-être en discuter, parce que ces grands projets servent des modes de vie qui sont des modes de vie éminemment urbains, ça va ? Et accessoirement, mais ça c'est pour la boutade, je le disais hier soir, pendant qu'on fait de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire que sur des terres légèrement dégradées, on met des panneaux, avec 2-3 moutons en dessous pour se donner bonne figure, on fait des toitures végétalisées en ville, ça a bien 2 secondes quoi. Parce que c'est ça, hein, qui est en train de se produire. Imaginez quelqu'un qui débarque de l'extérieur et qui voit qu'on fait des tomates cerises sur des micro-terrasses à Paris, pendant qu'on met des panneaux photovoltaïques sur des terres encore un peu cultivables, parce que légèrement dégradées, bon, tout bien qu'on peut pâturer. Et à un moment donné, bon, il y a une inversion, vous voyez, qui est en train de s'opérer. L'énergie est un deuxième sacrifice des campagnes après le temps alimentaire. Mais néanmoins, l'énergie a commencé à manquer et ça va s'accélérer. Il n'y aura pas de transition énergétique, tous les écrits sont clairs. Récemment, vous avez une petite controverse entre Fressos et Gemène, je ne sais pas si vous l'avez suivi, pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, mais qui montrent assez clairement que Fressos a raison et que les historiens sont clairs depuis maintenant 30 ans. Il faut beaucoup d'énergie fossile pour passer du tout fossile au tout renouvelable. Et même si la Chine accélère, la matière, on est passé par les pics, hein, les pics ont été franchis, et les minerais, voilà, vous regardez le bureau de géologique nord-américain qui fait référence, hein, dans le comptage des ressources de minerais, tous les minerais sont annoncés pour atteindre le pic, on a déjà commencé et c'est annoncé pour ce restant à horizon 2120 pour le dernier d'entre eux. C'est-à-dire qu'on va devoir vivre, on va devoir faire mieux avec bien moins, on va devoir vivre différemment, et au final, c'est là où je veux en venir, c'est que si les villes, 1, invivables, 2, l'autonomie est posée, donc il va y avoir des ruptures d'approvisionnement, des blackouts, comme l'Espagne en a connu il y a un an de cela, et que ça s'enfonce sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques, ça veut donc dire que l'ensemble des économies vont se relocaliser. Ça va ? C'est-à-dire qu'il va falloir se rapprocher, puisqu'on n'aura plus l'énergie pour faire venir de très très loin, de milliers de kilomètres. Il va falloir rapprocher production et consommation. Et c'est pas, il va falloir toutes les données concourent à un réaménagement du territoire, mais qui serait plus un aménagement, à privatif ménagement, le ménagement, mais un déménagement du territoire. Et c'est ce qui était annoncé par des collègues géographes dans les années 70-80. Il va falloir s'organiser. Et ça a déjà commencé à bas bruit, les exodes urbains qui n'existent pas en termes d'exode, mais des vagues de néo-ruralité, et surtout le nombre, la centaine de milliers de métropolitains qui quittent les espaces urbains chaque année, ce nombre-là va augmenter, et du coup, ça va tout simplement rééquilibrer entre l'hyperconcentration métropolitaine urbaine, l'hyperpolarisation depuis les grandes villes, au profit des villes moyennes et surtout des petites villes de proximité et des espaces de campagne. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est bien, en fait, non pas écrit, je ne suis pas devin et personne ne l'est, mais vraiment, toutes les données concourent pour la dégradation de la visibilité des villes, toutes les données concourent pour la descente énergétique et la compression matérielle, toutes les données concourent pour dire que le tout urbain que nous avons défendu des siècles durant est une dévastation du vivant. Voilà. C'est même la dette première de l'humanité au vivant. D'avoir cru, mais ça a servi des causes, soyons clairs, et ça a permis d'accéder à un certain confort. Je ne cherche pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, on va laisser le bébé tranquille d'ailleurs. Je ne cherche pas à faire effet de manche en disant qu'il faut tout réviser, que notre histoire s'est trompée. Non, le confort auquel nous avons accédé a indéniablement apporté de la qualité, mais aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens. Les limites planétaires ont été franchies, et il va nous falloir abaisser le taux de charge, diviser par 4 à 6 nos pressions. Globalement, si vous voulez une comparaison, c'est vivre non pas selon le même mode de vie, mais avec les mêmes niveaux de moyens, en parité de pouvoir d'achat que les années 60 et 70. C'est-à-dire rapporté à aujourd'hui avec un équivalent monétaire de 600 à 650 euros. Voilà ce avec quoi nous devrions vivre mensuellement si vraiment nous souhaitions abaisser le taux de charge et réduire les empreintes. Donc, qu'est-ce à dire ? Exactement. Que l'alternative a déjà commencé, et d'autres volontairement. Donc là, il y a indéniablement un facteur à trouver pour les rassembler. Donc vous anticipez le point suivant, qui est de dire que ce déménagement du territoire a déjà commencé par l'appétence, l'envie des campagnes et des ruralités, mais surtout par les mondes de l'alternative, et aussi les cultures paysannes, qui sont amenées à critiquer le modèle dominant, mais aussi à puiser dans l'histoire, voire à actualiser des éléments qui permettraient à des fins vivrières et nourricières d'abaisser le taux de charge en mécanisant moins, en consommant moins beaucoup moins d'intrants et plus largement en laissant les terres arables à l'alimentation, en arrêtant le délire énergétique qui est en train d'arriver, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui sont déjà, non pas sur le marché, parce que c'est pas un marché de la pensée, mais qui sont déjà dans l'anticipation du temps d'après. mais qui ont été totalement subalternisés. Ces acteurs ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés. Les foyers ruraux ne sont pas entendus, les pays géographiques ne sont pas étendus, les parcs naturels régionaux, pour ceux que ça intéresserait, ne sont pas entendus. Et vous avez surtout plein d'alternatives qui aujourd'hui maillent le territoire. Un syndicat de la montagne Limousine, une chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, une université rurale des Cévennes, une coopérative intégrale d'Ambéry. Vous avez plein d'initiatives qui, d'échelle intermédiaire, s'organisent de manière citoyenne, un peu revendicative, hein. C'est très militant, soyez clairs. C'est assez anarcho-libertaire cette affaire, hein, d'accord ? Il y a des gens qui politiquement estiment qu'on ne peut plus compter sur l'État et les institutions et qu'à un moment donné, il va falloir s'organiser différemment. Voilà. C'est indéniablement ce qui a plutôt ma faveur, si tant est que je donne des faveurs. Je commençais à me caresser les doigts du ton monarchiste et un peu royal, mais néanmoins. J'ai pas de faveur à donner, mais néanmoins. Ça résonne avec ma pauvre fibre politique, mais c'est pas anodin que ça soit en train de se développer. Ça soit en train de se développer. Vous avez beaucoup d'alternatives qui maillent le territoire de manière archipélique, et qui, tout simplement, annonce justement le coup d'après. Alors, certains, c'est par velléité et volonté, et d'autres, c'est par nécessité, un peu subie. Et c'est d'ailleurs l'exode urbain dont on a parlé, qui n'existe pas, comme je le redis, a aussi concerné des précaires qui, quitte à ramer, préféraient accéder à un petit lopin de terre et sont partis dans les ruralités. Bref, la question du déménagement est posée, elle va s'imposer à 30, 40, 50, 60 ou 70 ans, de maintenant à 2100, le territoire, mais par nécessité vitale, va se rééquilibrer. Ça s'appelle une relocalisation. Il ne s'agirait pas de réindustrialiser avec des méga factories, ça va ? Il ne s'agirait pas de réindustrialiser en ayant des exploitations agricoles de 300 hectares, 400 hectares, 500 hectares. Je vais terminer tranquillement mon propos pour tout simplement dire quels sont les éléments qui permettraient de diviser par 4 à 6 le taux de charge dont j'ai parlé, c'est-à-dire d'avoir des vies qui nous permettent, par leur empreinte, de revenir sous les limites planétaires. Ben ça tient en un mot, c'est une question de taille. C'est-à-dire qu'il va falloir faire mieux avec moins, mais en beaucoup plus petit. Et donc en faisant autonomie. Mais l'autonomie n'est pas l'autarcie, même si étymologiquement c'est très voisin. Il ne s'agirait pas de se claquemurer, d'accord, de s'enfermer, mais tout simplement de choisir ses dépendances à l'échelle locale de communautés villageoises, de renouer avec des communs historiques et ancestraux, pour autour de l'eau, autour de la terre, autour des ressources vivrières, autour d'une agriculture qui serait réellement locale, avec des boucles de circuits locales, et bien tout simplement permettre de directement se nourrir, et plus largement de faire société et communauté, par un petit artisanat, par un paysanat. En fait, on ne va pas faire un retour en histoire, il nous faut faire un détour par le passé. Et revenir à des choses non identiques, puisque le progrès est passé par là, autant ne pas tout jeter, mais néanmoins trier de telle manière à vivre à l'échelle de communautés, et de communautés dans les ruralités. Il n'y a pas d'autre modèle territorial qui permettrait aujourd'hui d'infléchir la tendance totalement écocidaire dans laquelle nous sommes embarqués. Il n'y a pas d'autre modèle qui permettrait d'inverser la dévastation du vivant dans laquelle nous sommes collectivement embarqués. La question de la petite communauté, villageoise en particulier, la question de hameaux et de bourgs, centres et de villages qui s'uniraient, comme on le faisait dans un certain temps, pour échanger, pour troquer, pour faire du don contre don, de l'entraide, de la solidarité, avec aussi, tels les beaux communaux de l'affouage, du glanage, quelques corvées qu'on pourrait réintituler pour éviter de refroidir tout le monde, à venir le dimanche ou le mardi travailler pour la communauté, c'est autour de ces petites unités-là que le territoire, immanquablement, à un moment donné, va devoir se questionner. Donc nous allons, les alternatives sont là-dessus, mais néanmoins, vous l'aurez remarqué, les mondes politiques ne défendent aucunement cette option-là. Et là, on est arrivé au terme, c'est-à-dire que on a des politiques qui sont inféodées à une économie mondialisée, on a des institutions qui ne roulent que pour le capital. Je le dis tranquillement, j'ai un gilet pare-balles. Derrière se joue de qu'est-ce que les communautés pourraient aussi apporter ? Eh ben, une remise en capacité. C'est-à-dire que les communautés locales, indéniablement, vont réarmer, passez-moi le terme, il est un peu belliqueux, mais aussi des manières autres de faire politique. La question de la démocratie directe, d'un autre rapport aux municipalités, d'un municipalisme éventuellement qui pourrait s'organiser. Le plus petit, c'est aussi une organisation politique d'une décentralisation organisée. Voilà. Et c'est indéniablement aussi vers ça. La relocalisation va être celle d'une démassification et se faisant d'une décentralisation des pouvoirs. Mais vous aurez bien compris que l'État, qui s'est centralisé, ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Du coup, il y a plein de réglementations récentes qui tendent à montrer que dès l'instant où vous voulez vous autonomiser, et ben vous êtes rappelé à l'ordre, d'accord ? Pour un petit habitat léger mobile, pour un petit abri de jardin qui pourrait être converti en logement, pour une réserve d'eau que vous pourriez éventuellement stocker, l'État veille, ça va ? Donc ça va être compliqué, je ne cherche pas à faire soulèvement en disant cette chose-là, je dis juste que écologiquement, il n'y a pas d'autre modèle territorial que celui-ci qui entérinerait la fracture et les tensions, mais qui pour retisser du lien et refaire, on va dire, concorde et pas harmonie, repenserait la question de la taille et du petit. Du coup, là je termine véritablement, quels seraient les espaces qui en France permettraient cette chose-là? On vient de sortir une carte, mais qui n'est pas trop prophétique, hein, autour de cette zone. Je vous informe tout de suite que vous en faites partie. Cette zone qui ont pour en France, hein, qui représente à peu près 5 millions, c'est ça, 5 millions de personnes, une petite quarantaine de départements, mais pas en totalité, donc voilà, c'est des fragments de départements. Et dedans, vous avez Alpes-de-Haute-Provence, un peu Maritime, Haute-Provence, etc., Haute-Alpes, pardon. Et en fait, on a les moyennes montagnes qui ressortent, on a les structures bocagères qui ressortent, on a l'habitat dispersé qui ressort. C'est pas un retour en histoire, c'est tout ce que l'aménagement du territoire a dépeuplé, désertifié, au profit des grandes densités. Ce qu'il a tenté de mécaniser, mais ce que la nature a donné en résistance, qu'une moyenne montagne pour la mécaniser, il faut se lever tôt, voilà. Une structure bocagère pour la remembrer, il y a quelques résistances locales liées aux cultures d'appartenance. En fait, vous avez dans les 7 zones, structure bocagère, moyenne montagne, habitat dispersé, des cultures, de la polyculture, de l'agroécologie, l'agroforesterie, qui indéniablement sont aujourd'hui les espaces de vie qui s'annoncent pour les 40 ou 50 prochaines années. Bref, un, c'est fracturé, deux, c'est tendu, il va falloir recréer la concorde, trois, écologiquement, ça rebat les cartes en plus petit et à l'échelle des communautés, et ben, du coup, la conclusion est de dire, attendez-vous, ça va débarquer, en fait. Voilà. Et donc, j'en ai terminé. Merci à vous.